Bonjour à toutes et à tous, on est sur NVS Radio pour l'invité de la rédac. Aujourd'hui, on reçoit Amélie Cellier, qui est responsable de la communication pour les événements Ultimate Cup. Amélie, bonjour.
Bonjour Dérénis, merci de m'accueillir.
Aujourd'hui, on va parler de l'Ultimate Cup Series et plus particulièrement de l'événement qui aura lieu au circuit de Nevers-Magny-Cours du 28 au 30 mai. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous présenter l'événement ?
Bien sûr. Alors, du 28 au 30 mai, nous accueillerons donc l'Ultimate Cup European Series. C'est un championnat de sport automobile européen qui rassemble plusieurs catégories de courses, en allant des prototypes au GT tout en passant par la monoplace. L'idée, c'est de proposer des plateaux très variés avec à la fois des pilotes amateurs passionnés et des pilotes plus expérimentés dans un cadre à la fois compétitif et accessible. C'est un championnat qui met en valeur autant la performance sportive que l'expérience globale sur la piste comme dans le paddock. On axe tout ceci autour de trois valeurs fortes, la compétition, la passion et la convivialité.
Du coup, comment la compétition, elle fonctionne ? Est-ce qu'il y a eu d'autres manches au préalable ? Comment ça se passe ?
Alors oui, en effet, il y a eu d'autres manches au préalable. Magny-Cours, ce sera la deuxième manche de la saison. La saison est composée elle-même de 6 manches, disputées aussi bien en France qu'en Europe. En France, donc, on retrouve la première manche qui sera le Paul Ricard qui a lieu le 24-26 avril. Magny-Cours, du coup. Mais aussi donc le Mugello en Italie, Spa-Francorchamps en Belgique, Navarra en Espagne et Portimao au Portugal pour le grand final. Donc chaque week-end, après, suit un format complet dans le sens où nous avons une première phase avec des essais libres où les pilotes vont pouvoir s'entraîner, tester la voiture, faire leur dernier réglage. Les phases de qualification qui vont définir l'ordre de départ des voitures pour la course. Et donc, nous finirons donc le week-end avec les courses. Donc, tout ce fonctionnement et cette structure, c'est une vraie continuité sportive sur l'ensemble de la saison. Enfin, on a vraiment une forme de schéma répétitif. Essai libre, qualif, course. C'est vraiment dans cet ordre-là qu'un championnat se déroule. L'ordre des différentes catégories, lui, peut varier selon les contraintes du circuit.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait plusieurs types de voitures. Du coup, combien de catégories il y a pour ces week-ends ?
Alors nous, sur l'Ultimate Cup European Series, nous avons 4 plateaux principaux. Nous avons notre plateau phare qui est l'European Endurance Prototype Cup. Donc une course d'endurance de 4 ou 6 heures selon les manches avec des prototypes, donc ce qu'on appelle des Nova NP02, c'est le nom du prototype. C'est une voiture 100% française au passage, fait par des constructeurs français. Ensuite, on a la Kenol GT Endurance Cup. Donc, c'est également notre deuxième course d'endurance qui fait, elle aussi, 4 ou 6 heures selon les week-ends de course. Là, on accueille différents types de GT. Ça peut être de la Ferrari, de la Lambo, de la Porsche, de l'Alpine. On retrouve aussi l'Ultimate GT Sprint Cup, donc dédié aussi au GT, mais sous un format de vitesse. Et enfin, la Hoosier Formula Cup, qui est notre championnat de monoplace avec des F3. Au total, sur un week-end de course, on compte environ 80 voitures et plus de 180 pilotes engagés sur un meeting. Ça donne des grilles vraiment chargées.
J'imagine. Au total, du coup, il y a combien d'écuries, combien d'équipes ?
Ça varie selon les week-ends, pour être tout à fait transparente, parce que selon les week-ends, une équipe va venir avec 4 voitures, d'autres une. Donc on peut recenser, je pense, sans difficulté, une cinquantaine de teams. Ça me permet de rajouter que sur le week-end de Magny-Cours, nous aurons également un championnat annexe qui fait partie de notre grande famille de l'Ultimate, mais qui ne roule pas nécessairement toujours chez nous. C'est la Legend Cars Cup. C'est un championnat monotype avec des voitures plus petites, équipées de moteurs de moto. Et on compte, pour le coup, environ 30 voitures.
Est-ce que les courses, elles sont exclusivement masculines ou il y a aussi des pilotes féminines ?
Alors, on compte justement les deux. Nous avons autant des pilotes masculins que des pilotes féminins. Malheureusement, bien sûr, plus de pilotes masculins que féminins, mais on tend à avoir de plus en plus de femmes au volant.
C'est donc un vrai progrès par rapport aux années précédentes, j'ai envie de dire.
Complètement. Complètement, complètement. Et ça nous permet, nous aussi, de mettre davantage en valeur la femme dans le sport mécanique qui est d'enlever certains préjugés encore très présents.
Est-ce que dans les écuries, dans les équipes techniques, il y a aussi beaucoup de femmes ou c'est encore majoritairement masculin, les techniciens, les mécanos, etc.
C'est encore majoritairement masculin aujourd'hui au niveau des techniciens, des mécanos. bien qu'on retrouve de plus en plus de femmes au niveau des postes de team manager, au niveau de l'organisation chez les teams.
J'ai envie de parler maintenant un petit peu du public. Est-ce que c'est un événement où le public, ça peut être des familles, des amateurs, ou souvent c'est plutôt des passionnés qu'on retrouve?
Alors, on retrouve évidemment souvent les passionnés. Pour le coup, nous, avec nos valeurs axées plus sur la convivialité et le fait de vraiment créer une expérience pour tous, on cherche à s'adresser aussi aux familles et aux amateurs, dans le sens où on fait en sorte d'avoir des animations sur les meetings qui sont ouverts au public, comme à Manicourt, en mettant en place des simulateurs de courses pour que les enfants puissent s'amuser ou autre, et mettre en place différentes activités selon nos possibilités, tout simplement. Mais on cherche à s'adresser plus à une sortie familiale, c'est-à-dire que souvent, pour reproduire le schéma typique, papa et ses garçons aiment beaucoup voir la voiture, mais maman est dans l'histoire avec sa fille aussi. Et en fait, l'idée, c'est que tout le monde puisse venir et que tout le monde trouve son compte. Donc, on cherche à vraiment à toucher à devenir un événement familial.
Vous disiez qu'il y avait des simulateurs. Est-ce qu'il y a d'autres animations ou expériences, des rencontres avec des pilotes, des visites du paddock? Comment ça se passe?
Alors oui, tout à fait, on peut mettre en place des visites du paddock, les gens peuvent déambuler sur le paddock, voir les teams, comment ils travaillent. Alors les box, on évite, sauf si on organise des visites, parce que c'est quelque chose qui se fait aussi. On organise des visites et des rencontres pour qu'on les le public puisse voir comment un team évolue. Les gens ont souvent accès aussi à notre structure de restauration, le catering, s'ils veulent pouvoir se restaurer, boire un café, prendre un dessert. Mais aujourd'hui, les animations, elles vont diverger selon nos possibilités. Nous avons passé un partenariat avec une entreprise qui propose des simulateurs de racing. Donc, eux, globalement, vont se retrouver sur beaucoup de nos événements en France, pour le coup.
Est-ce que vous connaissez déjà des animations qu'il y aura à Manicourt le 28 au 30 mai?
Alors pour le moment, nous gardons un peu ça secret parce qu'on essaye de préparer quelque chose d'assez sympathique. Donc pour le moment, on essaye de garder ça en interne.
Sur un week-end de 2-3 jours de course, combien est-ce qu'il y a de spectateurs par jour? Un nombre, ouais.
Alors pour être tout à fait transparente, aujourd'hui c'est difficile à estimer dans la mesure où nous sommes à huis clos sur la plupart des meetings. Nous ne pouvons pas nous permettre à l'étranger toujours d'ouvrir au public. Donc par souci d'efficacité et de garder une expérience fluide pour nos pilotes et l'organisation. Nous restons à huis clos à l'étranger. La seule manche que nous ouvrons pour le moment, c'est Manicourt, vraiment pour commencer à faire venir du monde, mais surtout on a de la demande sur Manicourt, donc nous leur ouvrons l'accès. Mais on sent clairement qu'il y a un intérêt qui grandit pour venir chez nous. On reçoit de plus en plus de mails et de demandes, aussi bien par les réseaux sociaux, pour venir nous voir. Mais aujourd'hui, on ne peut pas encore se le permettre, donc je ne peux pas vous estimer le nombre de spectateurs.
Quand vous dites que vous ne pouvez pas vous permettre d'ouvrir au public à l'étranger, c'est quoi les raisons? Pourquoi?
Il faut savoir que quand on ouvre au public, il y a des dispositifs de sécurité à mettre en place. Donc, sans parler de l'aspect financier, il nous faut un grand nombre d'autorisations et ça peut être parfois difficile de coordonner tout ça.
On va aussi maintenant parler des sponsors. Vous disiez que vous n'aviez pas passé un partenariat avec des simulateurs. Est-ce que vous en avez d'autres?
Alors, nous aujourd'hui, les sponsors, ça joue vraiment un rôle essentiel dans le fonctionnement du championnat parce que, aussi bien à notre niveau du championnat, enfin à l'organisation du championnat, parce que on en a besoin pour faire avancer le championnat, mais aussi bien au niveau des teams pour les faire vivre et qu'ils puissent trouver des financements pour participer. Mais aujourd'hui, nous en avons d'autres, en effet. Nous avons notamment Kenol, APR, qui est notre fournisseur de pneumatiques, et Goodyear comme partenaire pneumatique. Du coup, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel parce qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas Goodyear comme partenaire pneumatique et APR pour nous fournir les pneus, on ne pourrait pas se permettre d'être un championnat d'aussi grande envergure.
Du coup, aujourd'hui, c'est assez difficile de mobiliser des partenaires, ou alors c'est en train de un petit peu pas être plus facile et plus de monde est touché et plus de monde vient vers vous.
Le sport automobile, ça reste quelque chose de très attractif, mais les partenaires sont aujourd'hui de plus en plus attentifs au retour sur investissement, notamment au niveau du contexte géopolitique qu'on connaît tous. Il faut donc proposer des dispositifs complets avec une visibilité assurée sur circuit de l'activation sur terrain et une forte présence média. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec l'Ultimate, notamment via de la publicité sur nos sites, c'est-à-dire aussi bien physiquement avec des banderoles autour des circuits, des arches, des oriflammes, pour vous citer quelques supports entre guillemets basiques, mais aussi sur notre site web, sur nos différents supports de communication, que ce soit les affiches, les réseaux sociaux ou tout autre flyer. Mais notamment via de la publicité aussi sur notre live YouTube. C'est-à-dire qu'on peut leur permettre de passer une annonce publicitaire comme on prévoit à la télé. Et on peut leur permettre de mettre un logo qui est sur le live en permanence, dans le bandeau de sponsors ou de partenaires. Aujourd'hui, on essaye vraiment de proposer des choses, mais ça reste de plus en plus compliqué au vu du contexte géopolitique international.
Vous parliez de live YouTube. Est-ce que ces courses, elles sont diffusées via un média ou pas du tout?
Oui, en effet, aujourd'hui, toutes nos courses et qualifs sont diffusées en direct live sur YouTube. Donc, on peut toutes les retrouver sur notre chaîne YouTube Ultimate Cup TV, aussi bien nos courses de voiture que nos courses de Légende 15.
Vous disiez tout à l'heure que la seule course ouverte au public, c'était celle de Nevers-Magny-Cours. Est-ce que vous savez, hein, vous connaissez l'impact sur le territoire de la Nièvre et pour Magny-Cours de cet événement?
Alors, je peux pas me permettre de donner de chiffres parce que je ne les connais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Ultimate Cup contribue clairement à l'activité du territoire. Magny-Cours, c'est un circuit historique qui est renommé, qui attire beaucoup de monde rien que par son nom. Et chaque événement génère des retombées économiques importantes pour la région, notamment via l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Mais notamment l'hôtellerie et la restauration. Il faut savoir que rien que nous, en termes d'hôtellerie et restauration, que ce soit le staff, les partenaires, prestataires et toute autre personne, tout autre acteur du championnat, ça représente plus d'une centaine de chambres réservées.
Comment vous voyez évoluer l'événement dans les prochaines années? Peut-être s'ouvrir au public à l'étranger, toucher plus de sponsors?
Alors, dans l'avenir, en effet, nous aimerions ouvrir au public au moins sur toutes les manches qui seront françaises. Parce qu'on a une notoriété aujourd'hui en France qui a bien évolué. On a de plus en plus de demandes en France, à l'étranger aussi, mais on sent que l'engouement est différent. Dans les 2-3 prochaines années, l'objectif serait vraiment d'ouvrir toutes nos manches en France et de proposer davantage d'animation et créer un réel rendez-vous familial.
Les principaux enjeux d'organiser un événement comme celui-ci, c'est quoi ?
Alors, organiser un événement comme celui-ci, c'est vraiment un travail de chef d'orchestre entre coordonner la logistique, la sécurité, les équipes, les officiels, les partenaires et les prestataires. L'enjeu est vraiment de garantir un événement fluide tout en étant sécurisé, sans oublier de maintenir un niveau très haut au niveau sportif.
J'ai oublié de vous demander tout à l'heure, mais pour les courses, comment ça se passe à la fin? Est-ce que c'est un cumul de points sur toutes les manches? Est-ce qu'il y a un vainqueur à chaque manche? Comment ça se passe?
Alors, nous avons des vainqueurs à la course. Donc, en effet, une course égale un podium, si je peux simplifier. Chaque place dans le classement génère un certain nombre de points par course. Donc, on a les vainqueurs par course pour chaque week-end. Et en fin de saison, en l'occurrence, ce sera Portimao pour cette année, nous avons donc un classement final qui génère les champions de la saison.
J'ai deux dernières questions. La première, c'est pourquoi est-ce qu'il faut venir à Magny-Cours cette année ?
Pourquoi venir à Magny-Cours cette année et comme ça l'avenir ? Pour voir du sport auto, accessible, intense et spectaculaire, pour voir ce qui se passe dans un team, parce qu'en Ultimate, on a la chance de laisser le public accéder au paddock et voir comment un week-end se déroule vraiment au cœur des teams, l'ambiance réelle qu'il y a dans le sport auto, et pas juste d'être dans une tribune à attendre de voir les voitures partir en piste. Donc pour vraiment vivre une expérience immersive et unique, rien que pour ça, je dirais aux gens de venir.
Et si vous aviez un dernier mot pour décrire le monde du sport auto et les événements que vous organisez, qu'est-ce que ça serait ?
Eh bien, si j'avais un mot de la fin à dire, c'est que si vous aimez le sport auto et que vous aimez tout simplement découvrir des univers différents, n'hésitez pas à venir parce que pour le coup, on stigmatise personne, on accueille tout le monde. C'est un championnat qui est bienveillant et qui a à cœur de faire découvrir sa passion. Donc que vous soyez passionné ou amateur, N'hésitez pas à venir à notre rencontre, nous poser des questions pour mieux comprendre notre univers. Donc, on vous attend sur le circuit et pour ceux pour qui c'est un peu loin, on vous attend sur nos lives YouTube.
Merci beaucoup Amélie.
Merci beaucoup à vous.
On était sur NVS Radio avec Amélie Seyé pour l'événement Ultimate Cup Series qui aura lieu au circuit de Nevers-Magny-Cours du 28 au 30 mai. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Belle soirée à tous sur NVS Radio.